Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocat, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocat.com.
Au 1047 Outaouais, vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé.
Bon, la chronique en droit du travail, on est vraiment là dans un dossier d'actualité cette semaine avec Maître Philippe Coderre. On va revenir sur un article du Journal de Montréal qui nous annonçait il y a quelques jours que le député péquiste Joël Arsenault a dû congédier un attaché politique parce que ce dernier était un adepte des théories du complot. Il est en bout de ligne. Bonjour Philippe.
Bonjour Louis-Philippe.
D'abord, pour les gens qui ne l'ont pas lu, peut-être nous rappeler les grandes lignes de l'histoire?
Ben en fait, c'est ça. C'est un député, Joël Arsenault. C'est le critique du PQ en matière de santé, si j'ai bien compris, qui, lui, préconise évidemment là, des mesures sanitaires importantes. Ça fait partie de ce qu'il fait comme politicien. Et la semaine passée, on a appris qu'un de ses attachés de presse, qui était en charge des communications, notamment pour ce député-là, remettait en question l'existence de la pandémie sur les réseaux sociaux, parlait d'hystérie collective. Il parlait également là, que c'était pas pertinent de porter le masque, que toute la pandémie, c'est une création de Bill Gates, etc., etc. Et la semaine passée, on a appris qu'il a été congédié de ses fonctions parce que, selon le député, dans les fonctions d'un attaché de presse, on doit avoir un certain devoir de réserve, puis on ne peut pas aller à l'encontre non plus de ce que le député défend. Alors, depuis ce jour-là, on a un petit débat ici au Québec concernant la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut vraiment là, congédier quelqu'un qui véhicule des pensées qui vont à l'encontre de ce que son employeur là, préconise?
Ça soulève donc ce débat-là sur la liberté d'expression qui est un droit fondamental au Canada. Explique-nous ça, Philippe, pour que les gens comprennent. Là.
Oui, ben en fait, la liberté d'expression, c'est protégé par les deux chartes, donc la charte canadienne et la charte québécoise. La charte canadienne protège les individus contre l'action gouvernementale, donc une législation ne pourrait pas porter atteinte à vos droits fondamentaux, sauf quelques exceptions, puis on va y revenir. Et la Charte québécoise, elle régit notamment l'action québécoise, le gouvernement du Québec, mais aussi les activités privées, les rapports privés. Ce que ça englobe, là, la liberté d'expression, c'est vraiment toute activité ou communication qui tente de transmettre une signification, puis peu importe le caractère offensant, impopulaire ou troublant de la déclaration. Ça protège aussi autre que la parole, la liberté de penser et les gestes. Donc, on a le droit de ne pas s'inquiéter pour avoir des opinions. Et quand je dis les gestes, c'est assez large comme définition. Par exemple, ne pas porter son masque à titre de protestation contre une mesure gouvernementale pourrait peut-être faire partie du droit à la liberté d'expression. Donc, c'est vraiment une liberté très large parce qu'on dit que c'est la pierre angulaire de toute démocratie. Ce que les dictatures ont tout en commun, c'est qu'on ne peut pas critiquer les mesures du gouvernement en place. Donc, c'est pour ça que c'est une composante essentielle, non seulement dans la société démocratique dans laquelle on vit, mais également en relation de travail, parce que ça a fait avancer plusieurs causes de personnes qui étaient vulnérables en milieu de travail, la liberté d'expression.
Cela dit, il y a quand même des limites, Philippe, à la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, tout à fait. Au niveau des limites, bien d'abord, il y a des limites qui sont constitutionnelles. Donc, par exemple, la définition de liberté du droit à la liberté d'expression n'inclut pas la violence physique. Par exemple, si pour m'exprimer, je décide de te frapper au visage, c'est pas protégé par le droit à la liberté d'expression.
J'espère.
Mais il y a aussi des limites. Lorsque une mesure est mise en place qui va contrevenir à votre liberté d'expression, mais qu'elle est justifiée dans une société libre et démocratique. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui décide de ne pas porter son masque à titre de protestation, le gouvernement peut être justifié d'imposer des amendes contre cette personne-là ou la contraindre à porter le masque lorsqu'elle est dans une situation donnée, parce que le gouvernement va prétendre qu'il y a un objectif urgent et réel à corriger, que la mesure est rationnelle avec ce qui vise à enrayer, et que le bris ou la violation de la liberté d'expression est justifiée dans une société libre et démocratique. Donc, quand on fait la pondération des droits de tous et chacun, c'est plus important de protéger la santé que votre droit de vous exprimer dans une circonstance comme ça. Il y a aussi les limites civiles. Puis on en a parlé souvent. Par exemple, le concept de diffamation qui émane là, de la responsabilité civile au Québec t'empêche de t'exprimer. Ça, tu peux t'exprimer, mais il va y avoir des conséquences si tu portes atteinte à la réputation de quelqu'un d'autre. Il y a les codes de déontologie aussi qui vont être des limites. Par exemple, en tant qu'avocat, on a un devoir de réserve. On doit agir avec modération. On peut pas dire ce qu'on veut quand qu'on veut. Et finalement, les limites pénal. Donc, par exemple, si je fais des propos qui incitent à la haine, qui visent à la destruction d'un groupe identifiable, ben à ce moment-là, évidemment, oui, j'ai le droit de le dire, mais il va y avoir des conséquences qui vont être pénales à ce moment-là.
Philippe, les propos de nature complotiste ne semblent pas entrer dans aucune des limites que tu viens d'énumérer, à moins que je me trompe. Est-ce que ça veut dire que les limites ne sont pas les mêmes en milieu de travail?
En matière de droit du travail, il y a un concept qui s'appelle l'obligation de loyauté. Donc, c'est un concept législatif qu'on voit dans le Code civil du Québec. Ce que ça inclut, là, puis c'est un peu une catégorie fourre-tout, tous les gens qui ont passé au travers un congédiement ont sûrement vu dans leur lettre de congédiement bris du lien de confiance, bris de votre obligation de loyauté. C'est très large. Ce que ça implique, ça, c'est que un employé doit agir de façon fidèle et honnête envers son entreprise, son employeur, et de façon à ne pas entacher sa réputation et la confidentialité des renseignements de l'entreprise. Donc, c'est en vertu de ce droit-là, bien souvent, que les employeurs vont agir et qu'ils vont brimer la liberté d'expression de quelqu'un quand tes propos vont à l'encontre même de la raison d'être de mon entreprise ou nuisent à mes intérêts, c'est-à-dire mon droit à faire de l'argent et gagner ma vie. Donc, quand vos propos, par exemple, de nature raciste, par exemple, pourrait nuire à l'image que la population a de votre entreprise et que ça nuit à votre entreprise, ben à ce moment-là, en vertu de l'obligation de loyauté, je peux sévir. Puis, par exemple, aussi, par exemple, une entreprise qui fabriquerait des masques, j'embauche quelqu'un, je le paye pour fabriquer des masques. Si cette personne-là, par la suite, va sur les réseaux sociaux et dit que les masques ne servent à rien, il vient de porter atteinte à mon droit de faire de l'argent, à mes intérêts légitimes comme employeur.
Oui. Bon, dans le cas qui nous intéresse, si on ramène ça à un député qui est porte-parole de santé, qui n'a pas du tout la même vision que son attaché politique, qui fait des sorties sur les médias sociaux, dans ce cas-ci, là, l'histoire des propos complotistes, est-ce que ça peut devenir un motif de congédiement?
Ça peut. Tout dépend de la nature des fonctions de l'employé, la nature de l'entreprise, puis s'il y a une politique en place chez l'employeur. Donc, je m'explique là. Par exemple, supposons que je suis le représentant d'une entreprise, c'est certain que mon devoir de réserve va être plus grand que quelqu'un qui n'a pas cette portée-là et quelqu'un à qui on ne peut pas associer l'entreprise essentiellement. La nature de l'entreprise, ben, ça revient un peu à l'exemple que je disais, par exemple, quelqu'un qui fabrique, une compagnie qui fabrique des masques, ben, si vous allez à l'encontre de ce qu'elle fait, à ce moment-là, c'est évident que vous allez nuire aux intérêts de l'employeur. Cela étant, la difficulté dans le présent litige, le présent débat, c'est qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi un propos là, complotiste ou conspirationniste. Il n'y a pas vraiment de définition. C'est très large. J'écoutais une chronique là, de Christian Page là, sur vos ondes cet été, puis c'est ce qu'il disait. Là, être un adepte des théories du complot, ça peut aller de penser que la Terre est plate jusqu'à simplement dénoncer des penser que les compagnies pharmaceutiques, par exemple, là, vont faire de l'argent avec la pandémie. Donc, normalement, les critères là, pour évaluer si oui ou non le congédiement peut être fondé ou une sanction peut être fondée, il faut y aller sous l'angle d'une inconduite qui est faite. Donc, on se demande si le propos a un lien avec le travail que vous faites. On se demande si, avec vos propos, vous dérogez à une condition essentielle du contrat de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que les employeurs qui n'ont pas de politique à l'interne concernant vos propos sur les médias sociaux vont avoir plus de difficultés à vous sanctionner si vous faites usage des médias sociaux pour vous exprimer sur des questions là, de nature politique.
Ouais. On ose espérer qu'un député avait quand même donné certaines consignes à son attaché politique par rapport à ce qu'il peut mettre sur les médias sociaux, mais ce que tu dis, c'est que s'il n'y avait pas eu, au fond, d'avis précis là-dessus, il y a peut-être une cause pour l'employé congédié, là.
Bien, ça dépend toujours de comment ça a été écrit, là, parce qu'il y a d'autres choses il y a d'autres critères à rencontrer. L'autre chose, on doit montrer là, que ça a porté atteinte à la réputation de l'employeur. Donc, dans ce cas-ci, je pense que pour le député qui essaie de véhiculer des opinions politiques en faveur des mesures sanitaires, d'avoir un employé en charge des coms qui vient contredire ce que vous dites comme député. C'est certain que, dans ce cas-ci, ça porte atteinte à vos intérêts.
Ouais.
Ça doit aussi, par contre, il y a certaines déclarations qui peuvent être faites, qui peuvent offusquer les employés, les autres employés. Et lorsqu'une majorité d'employés refuse de travailler avec la personne qui fait des propos, ça peut être conspirationniste ou de toute autre nature, c'est un autre argument que l'employeur va prendre en considération pour déterminer si oui ou non je peux sanctionner la personne. Mais il faut faire très attention parce que les propos de nature conspirationniste, comme on le voit présentement, ça pourrait être interprété comme des convictions politiques. Et les convictions politiques, c'est un droit qui est protégé par la Charte québécoise, c'est-à-dire que je ne peux pas être discriminé parce que j'ai des convictions politiques, à moins évidemment que ça va à l'encontre des qualités requises là, pour occuper mon emploi, ce qui pourrait s'appliquer ici dans le cas du député. Donc, c'est ça qu'il faudrait...
Cas particulier parce qu'en principe, on a le droit d'avoir nos opinions politiques, mais si tu travailles pour un parti politique puis tu prônes le contraire de ton parti politique, il y a comme un petit bris de confiance, mettons, là.
Je vous donnerais l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui travaillerait pour un parti politique fédéraliste. La personne, elle est souverainiste, elle a le droit de l'être, c'est pas grave, mais si elle va diffuser de l'information sur Internet où elle critique les prises de position de son parti politique, bien, c'est évident qu'elle ne rencontre pas, là, elle n'a pas les qualités requises pour l'emploi. Donc, même si elle a des convictions politiques et que c'est protégé, en raison de la nature de l'emploi, là, je peux sévir dans un cas comme ça.
On est dans le devoir de loyauté ici qui est brisé, probablement. Là. Mais par contre, propos, là où ça devient intéressant, c'est assez particulier l'histoire de l'attaché politique, mais j'ai vu, moi, des fonctionnaires que je connais émettre ce même genre d'opinion sur Facebook, mettons un fonctionnaire du fédéral, lui, ça serait différent, là. Ça serait complètement différent comme cause, probablement.
Ça serait très différent comme cause, à mon avis. En matière de fonctionnaire, il y a de la jurisprudence là-dessus. On a un certain devoir de réserve. Donc, quand vous êtes fonctionnaire, là, vous signez des contrats, puis il y a souvent une prise, je porte allégeance, et voilà, là, je m'engage à ne pas nuire aux intérêts là, de Sa Majesté la Reine, là, quelque chose comme ça. Donc, vous vous engagez à un certain devoir de réserve. Sauf qu'évidemment, faut que l'employeur puisse démontrer que ça nuit vraiment à ses intérêts. Puis c'est ça qui va être
exemple,
va être
si c'est un fonctionnaire de Santé publique Canada qui tient des propos comme ça, ben là, on revient peut-être dans une situation pas mal plus délicate pour l'employé, là.
Exact. Il faut toujours retourner en arrière aussi sur les principes de base en droit du travail. C'est pas parce que vous faites un propos ou vous émettez un propos de cette nature-là que le congédiement est absolument la sanction qu'on doit faire. Mettre en place. Il y a certains critères. On doit regarder d'abord, avez-vous un dossier disciplinaire vierge? Est-ce que mes directives comme employeur étaient suffisamment claires? Est-ce que vous avez démontré des remords? Est-ce que vous avez supprimé votre publication? C'est toutes des choses que l'employeur doit évaluer. Mais la règle de base, c'est que si ça a un lien connexe avec l'emploi et que ça nuit aux intérêts de l'employeur et que l'employeur peut faire cette preuve-là, cette démonstration-là, à ce moment-là, oui, théoriquement, on peut sévir contre quelqu'un qui tient de tels propos.
Et ça revient en conclusion, souvent la même chose, l'importance pour les employeurs d'avoir une politique claire en la matière. Au moins, l'employé peut pas dire « ben je le savais pas que j'avais pas le droit de faire ça ».
Exact. Une politique là, claire, ça veut pas dire « je vous interdis d'émettre des propos complotistes sur Internet ». Ça, c'est vraiment là, enrayer le droit à la liberté d'expression, à moins que la nature même de l'entreprise va à l'encontre de tels propos. Mais ce que je peux faire, par contre, comme employeur, c'est d'avoir une politique des médias sociaux. Il y a trop d'employeurs encore qui n'en ont pas. Cette politique-là vise à dire, lorsque vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas associer vos propos à mon entreprise. Donc, si sur votre profil Facebook, vous émettez, par exemple, des propos conspirationnistes qui nuisent à mes valeurs et à mes intérêts et qu'on voit dans votre profil que vous travaillez chez moi, bien ça, dans le cadre et dans le biais d'une politique des médias sociaux, je peux le circonscrire. Et je peux aussi véhiculer les valeurs de mon entreprise. Par exemple, on est une entreprise inclusive. On ne veut pas de propos diffamatoires, on ne veut pas de propos haineux. Ces rappels-là vont être utiles parce que si un litige vous congédie quelqu'un, cette personne-là va probablement se défendre parce qu'on vient de porter atteinte à son droit de gagner sa vie. Et lors du procès, quand on dépose une telle politique qui est claire, limpide, qui a été diffusée et communiquée et enseignée aux employés, l'employé ne peut pas dire qu'il ne savait pas.
Merci beaucoup, Philippe, et on a hâte de voir la suite de cette histoire-là là, impliquant l'attaché politique du député péquiste Joël Arsenault. On se reparle la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Merci.
Merci, Philippe.